présidence.
Bonjour à tous. Bonjour Pauline.
Bonjour.
Et bienvenue pour ce 14e numéro de présidence, votre émission politique sur les ondes de Transistor. Le peuple s'intéresse à la politique quand la politique s'intéresse à lui, déclarait Ségolène Royal en 2006. Le peuple. Le peuple devrait être, logiquement, au cœur de toutes nos préoccupations politiques, sans que l'on ait besoin de le mentionner, de s'en revendiquer, sans l'instrumentaliser, parce que, comme Abraham Lincoln le disait, la démocratie, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Pourtant, combien de fois les hommes et femmes politiques en campagne utilisent-ils ce mot, le répétant, le tordant jusqu'au point où à la fois il sonne purement et il casse, pour paraphraser Bonnefoy à propos de l'esthétique de Baudelaire, sauf qu'ici, point de poésie, les hommes et femmes politiques tordent le mot peuple jusqu'au point de le casser et de le souiller irrémédiablement. À Marseille, lors de son premier meeting en tant que candidat officiel, Nicolas Sarkozy s'est présenté comme le candidat du peuple, ce qui lui a valu cette réplique de Philippe Poutou du nouveau parti anticapitaliste. C'est Sarkozy et le candidat du peuple, je suis le candidat du CAC 40. Dans ses meetings et ses interventions, Marine Le Pen ne cesse de parler du peuple, peut-être pour persuader le peuple qu'elle parle en son nom. On l'accuse d'être populiste, elle ne prend pas cela pour une insulte. Tous, de François Bayrou à Jean-Luc Mélenchon, en passant par Dominique de Villepin, entendent parler au nom des oubliés, des anonymes, des invisibles, nouveaux avatars de ce peuple condamné à être cet éternel mineur dont parlait Flaubert dans sa correspondance. Mais qui est donc cet être complexe que tous les hommes politiques redécouvrent quand vient le temps des élections et qu'ils nomment peuple ? Demos chez les Grecs, populus chez les Romains, peuple en français et une même ambiguïté, celle de désigner à la fois le peuple assemblé, la communauté politique, et la fraction dite inférieure, le petit peuple, la populace, toujours susceptible, paraît-il, de se muer en masse incontrôlable, parce qu'ignorante et donc manipulable. D'où une même ambiguïté quant à l'accusation de populisme. D'un côté, ce qu'il assume, ce qu'il revendique, et pour eux, le populisme joue en effet sur la fibre de l'authenticité, de la vertu naturelle du peuple contre les élites perverties et les médiations artificielles de tous ordres. D'où la volonté d'un recours direct au peuple, qui prétend passer par-dessus les médiations institutionnelles, notamment par les référendums redevenus à la mode en ce printemps qui approche. À entendre les propositions des candidats de Nicolas Sarkozy, à Marine Le Pen en passant par Corinne Lepage ou François Bayrou. Mais il n'en est rien. Le populisme s'adresse toujours à l'émotivité plus qu'à la réflexion, à l'immédiateté et à la réactivité plus qu'à la distance requise par le jugement. Quel est alors ce peuple que l'on prétend défendre, sinon cette figure mythique ou mythifiée, protégée de tous les égarements par sa vertu naturelle ? De l'autre côté, ceux qui accusent leurs adversaires de populisme ne sont pas mieux. Consciemment ou inconsciemment, ils colportent l'idée que le peuple serait trop bête et donc si facile à le manipuler. Comme si tout le monde ne se rendait pas compte que, quand Nicolas Sarkozy propose un référendum sur la formation des chômeurs pour lutter contre l'assistanat, ce n'est pas pour nous demander notre avis, mais pour stigmatiser une frange de la population dans une stratégie électorale de captation d'un électorat de droite potentiellement attiré par Marine Le Pen et ses sirènes. D'ailleurs, le vocabulaire actuel où on parle des pauvres, des démunis, des précaires, plutôt que des travailleurs, où on parle des invisibles, des sans-grades, des anonymes, plutôt que du peuple, montre bien cette perspective misérabiliste. Plutôt que d'inciter à une réflexion sur l'état actuel de la démocratie, les candidats qui se revendiquent populistes, comme ceux qui accusent les autres candidats d'être populistes, mettent en scène une nature du peuple, qui est plus une fiction qu'une réalité. Alors, messieurs et mesdames, les hommes et femmes politiques, laissez le peuple tranquille, ou arrêtez de parler comme lui, ou arrêtez de parler de lui comme un être fragile et semi-dément. Avant de me tourner vers vous, Vincent Gouteni, bonjour déjà.
Bonjour.
Vous qui êtes porte-parole régionale de lutte ouvrière et donc qui représentez Nathalie Arthaud dans cette campagne, il est temps de laisser la parole à un autre indigné, Amos, presque en direct de Jérusalem, pour son carnet de campagne.
«
Alors la tragédie s'invita en pleine campagne. Toulouse et Montauban, les morts, mais aussi le meurtrier Mohamed Merah, se réclamant d'Al-Qaïda comme un tremblement de terre dont on n'aurait pas fini de subir les secousses. C'est le 22 avril au soir qu'on saura finalement si l'attaque terroriste et les représentations qu'elle a suscitées ont ou non influencé le choix des électeurs. On peut tout de même déjà souligner une certaine exemplarité de nos hommes et femmes politiques. Après l'odieuse polémique du halal, on pouvait craindre la vraie boucherie, le racisme libéré, comme au funeste temps du glorieux débat sur l'identité nationale. Il eût été si facile de s'en prendre à tous les Mohamed du pays. Mais la dignité l'a emporté. La République n'a pas sombré, le président Sarkozy, une fois n'est pas coutume, a fait honneur à sa fonction. Marine Le Pen a eu beau changer de collier, passer du cœur sentimental à la croix de combat, son message de haine ne s'est pas imposé, n'est pas devenu la parole dominante. C'est ce qu'on peut aujourd'hui constater au vu des dernières journées de campagne, des derniers sondages, mais c'est également ce qui peut se briser dans le secret de l'isoloir et qui laisse toujours entrevoir le pire pour le 22 avril 2012. Contrairement à il y a 10 ans, l'immigration, l'insécurité ne semblent cependant pas les préoccupations principales des Français, avec ou sans Mohamed Merah. Le chômage, le pouvoir d'achat, la crise, voilà ce qui concerne les Français. On comprend alors l'envolée sondagière de Jean-Luc Mélenchon, qui s'attaque front contre front au discours lepéniste, opposant à la vindicte ethniciste de Marine Le Pen, qui fait de l'étranger le responsable des maux du pays, une réalité socio-économique. Entre l'ethnique et le social, les Français semblent avoir fait le choix du second, l'augmentation du SMIC plutôt que la baisse du nombre d'immigrés. Mélenchon, proclamé troisième homme de la campagne, profite également de la lande des bandades hollandaises, une molle tortue en perte d'élan, qui emporte de moins en moins l'adhésion, qui apparaît plus que jamais comme le grand pis-aller de 2012. La question est de savoir si le pédalo aura assez d'élan pour atteindre le 22 avril et, a fortiori, le 6 mai. Autant dire qu'avec les grands penseurs du renouveau que sont Manuel Valls et Pierre Moscovici, ce n'est pas gagné. Reste que la poussée de Mélenchon profite avant tout au candidat socialiste. En vue du second tour, un Mélenchon puissant vaut toujours mieux pour la gauche qu'une Marine Le Pen tutoyant les 20%. Alors Sarkozy s'inquiète. Il sent qu'il peut gagner. Il est persuadé qu'Hollande est un nul, qu'il peut l'exploser. Autant de paroles fleuries sorties de la bouche de notre illustre président. Et pourtant, il semble incapable de rattraper son retard sur le président du Conseil général de Corrèze. À croire que le problème de Sarkozy, c'est Sarkozy lui-même, qu'une majorité de Français ne le supporte plus. 5 ans ministre, 5 ans président, une décennie française sous le sceau sarkozyste de l'agitation, de l'activisme, du volontarisme, mais aussi d'une certaine forme de vulgarité, d'une série d'affaires de Karachi à l'éternel Bettencourt. Les Français sont las, ne semblant pas prêts à vouloir repartir pour 5 ans. Et qu'au crépuscule de cette décennie sécuritaire, entre racailles et Karcher, un Mohamed Merah puisse semer la panique sans que la police ne soit en mesure de l'empêcher de nuire, voilà qui pourrait singulièrement achever de ternir le bilan du président candidat. On en oublierait presque qu'il y a quelques mois, la Grèce s'effondrait, que notre monnaie commune était menacée. On oublie que nos frères méditerranéens d'Italie et d'Espagne sont menacés par la faillite de leur État. La crise économique, la crise sociale, la crise écologique, la crise civilisationnelle, comme la toile tragique que les candidats refusent de regarder en face. Le retour du réel sera d'autant plus violent, le risque d'abstention nationale demain, de désastre continental après-demain. Reste Jacques Cheminade qui propose la conquête martienne. Peut-être le rouge du troisième millénaire, allez savoir. Sûrement le sourire d'une inquiétante campagne.
Merci Amos. Quand on rentre dans sa chambre, on a très peur. Sur tous ces murs, punaisés des photographies, découpés des articles de journaux, gravés des noms d'hommes et de femmes, Eva Joly, Dominique de Villepin, Jean-Luc Mélenchon ou encore Nicolas Dupont-Aignan. Et un peu plus loin, un nouveau nom qui vient d'apparaître, une nouvelle cible. Non, vous n'êtes pas rentré dans la chambre d'un tueur en série. Bien pire, vous venez de pénétrer dans l'antre de la portraitiste en série, la dangereuse Pauline, au débit de mitraillette, pour son portrait de la semaine. « Et cette semaine, Pauline, c'est le nom de François Bayrou qui est apparu sur ton mur de chroniqueuse psychopathe.
Eh oui, tout à fait. Donc tu as tout à fait raison de le mentionner comme étant non Bayrou, mais François Bayrou, puisque là, enfin, là, le titre de ma chronique, ce sera Bayrou le troisième homme, donc après Sarkozy et Hollande, ou l'autre François, puisque François Bayrou va de pair avec François Hollande, François Mitterrand, peut-être François Fillon, bref, que des François. Donc, dans un article en ligne en date du 2 mars, le journal Le Monde titre « Face aux improvisations de ses rivaux, M. Bayrou vante sa cohérence. Lors de son deuxième meeting, jeudi 1er mars à Angers, il les a même accusés de se livrer à une surenchère jugée irresponsable ou encore dangereuse. C'est que le président du Modem, né François-René Jean-Lucien Bayrou, le 25 mai 1951 à Bordère, dans les Pyrénées-Atlantiques, fils d'Emma Sartou et de Calixte Bayrou, propriétaire agriculteur et maire de Bordère, a tout de l'homme vertueux, attaché à des principes éthiques et à des valeurs morales, pour qui l'effort, la responsabilité et l'honneur ne sont pas des notions dépassées, pour qui la politique est un devoir et non un spectacle. À bon entendeur. Son parcours même s'en ressent. D'abord proche des mouvements pacifistes et adepte de la non-violence, il a fait ses premiers pas d'homme politique en tant qu'élu local, conseiller général en 82, puis député UDF des Pyrénées-Atlantiques en 86. Mais si François Bayrou est convaincu depuis toujours et aujourd'hui encore de posséder un destin politique, il n'a jamais renoncé cependant à ce qui semble être chez lui une véritable vocation, l'éducation. Agrégé de lettres classiques en 1974, soit à 23 ans, il devient enseignant. Et dans le public. En effet, bien que catholique pratiquant, Bayrou est un fervent défenseur de la laïcité républicaine. C'est pourtant ce thème qui, en 1994, va le perdre. Lorsque ministre de l'Éducation nationale dans le gouvernement de cohabitation de Balladur, il décide, contre l'avis de tous ses conseillers et proches, de s'attaquer à la loi Falloux et en propose une réforme dont le but aurait été de déplafonner la possibilité, pour les collectivités locales, de subventionner les investissements des établissements d'enseignement privés, dont la conséquence, en d'autres termes, aurait été de favoriser l'enseignement privé. Les réactions ne se font pas attendre. Dès l'annonce de la réforme, 1 million de Français sortent dans la rue et scandent « Bayrou démission ». C'est précisément à ce moment que le futur président du Modem prend conscience que ce genre de choses n'arrive pas qu'aux autres, non, que la confiance en politique peut disparaître, et oui, aussi vite qu'elle est apparue, et oui. Il apprend alors aussi et surtout la nécessité du dialogue, de la concertation. En mars 97, le magazine Transfac remarque que le ministre, désormais, reçoit toujours davantage la farandole des mécontents et des inquiets, qu'ils soient syndicats, profs ou étudiants, et, notant ce changement de cap, un journaliste du magazine n'a plus qu'à constater que, waouh, le ministre réussit à se faire pote avec tout le monde. C'est aussi son comportement avec ses proches, ses fidèles, son équipe qui a changé. Jacqueline Gourault, membre de l'équipe dirigeante du Modem, en appelle ainsi à une forme de division des tâches au sein même du parti et elle explique « Bayrou a du mal à sanctionner, c'est son côté catholique qui lui fait dire qu'il y a toujours quelque chose de bien chez chacun. En revanche, il nous fait confiance et nous laisse prendre pour lui les décisions difficiles. » Quant à la dimension pragmatique du pouvoir, quant à la gestion du Modem, c'est à la fidèle de toujours, vice-présidente du parti, Marielle de Sarnez, que cela revient. Elle protège son chef et mentor des vicissitudes de ce monde, au point que certains militants voient en elle la gardienne du temple, mais aussi la chienne de garde, érigeant un mur entre son François et la France. Bayrou, prisonnier d'une tour d'ivoire, manquant de réalisme, à la fois trop rigide et trop gentil, se laissant enfermer par son premier cercle au sein d'une prison dorée? La question reste posée et résonne de manière ironique quand on sait que ce Béarnais pure souche, certes agrégé, érudit, enseignant, mais qui aussi a dû mettre la main à la pâte et se faire agriculteur après la mort brutale de son père survenue alors qu'il n'a que 23 ans et qui a longtemps été le papa surbooké de 6 enfants, aujourd'hui grand-papa, est aussi l'auteur d'une biographie d'Henri IV intitulée « Le roi libre ». Entre obligations familiales et devoirs politiques, François Bayrou n'a, semble-t-il, pu que rêver la liberté, l'écrire en rappelant, voire en fantasmant celle d'un autre. Est-ce lui-même qu'il voit, qu'il projette sur cette figure historique? Et la campagne présidentielle n'est-elle pas pour lui le moyen d'enfin sortir d'un costume qui, de simplement étroit, devient dramatiquement étriqué, l'étouffant, l'épuisant, l'enserrant, mais pas irrémédiablement? Non, non et non. Bayrou, en effet, confiant et combatif, a déjà remporté plus d'une victoire. Victoire politique d'abord, telle la présidentielle de 2007 par exemple, avec 7 millions d'électeurs au soir du premier tour, 18,7% des voix, c'est-à-dire 3 fois plus qu'en 2002, lors de sa première candidature. Mais victoire personnelle aussi, tel le fait d'être venu à bout de son bégaiement qui l'a accablé jusqu'à l'âge de 30 ans. Sur France 3, s'entretenant le 17 avril 1993 avec Jean-Pierre Elkabbach, le futur ténor du Modem confie « C'était une grande souffrance, toutes les difficultés qu'on rencontre dans la vie, elles intéressent, celle-là elle fait rire. Mais tous ceux qui ont une difficulté, ou bien ils se couchent, ou bien ils ont envie de vaincre, moi j'étais de ceux qui avaient envie de sauter les obstacles. Bref, du roi libre au discours d'un roi, on ne sort ni de l'histoire romancée surtout, ni de la monarchie, celle qui nous fait rêver parce qu'on ne l'a plus peut-être, et Bayrou de davantage ressembler à un personnage de film ou de livre. C'est l'agriculteur agrégé, le catholique convaincu, enseignant laïque, ministre voulant favoriser le privé, père de 6 enfants, grand-papa, et voilà que je te donne une baffe en plein Strasbourg, devant les caméras. Que de contradictions dans toutes ces associations, celle d'un homme qui se cherche tout en nous cherchant, au point que nous aussi nous nous mettons à le chercher, incapables que nous sommes de le situer précisément, simplement, clairement, adeptes que nous sommes du schématisme gauche-droite. C'est qu'en France, être au centre, c'est être nulle part. Un peu de gauche quand il se fait pote avec un peu tout le monde, un peu de droite quand devant les caméras, il donne une gifle à un gamin qui tente de lui faire les poches. Et, dans l'un et l'autre cas, c'est nous qui la pression, c'est nous qui galvanisons. Bayrou met en relief moins l'instabilité béarnaise, moins sa propre instabilité en fait, que l'indécision française.
Merci Pauline. Alors, à l'heure où les usines de Le Jaby ou de Gandrange cristallisent la désindustrialisation française, à l'heure où les tensions sociales sont accrues, à cause de la crise notamment, nous recevons le porte-parole d'une candidate à l'élection présidentielle, Nathalie Arthaud, un porte-parole d'un parti mythique, Lutte ouvrière, et cet invité, c'est Vincent Goutani. Vincent Goutani, bonjour.
Oh, bonjour.
Alors tout d'abord, je vous voyais noter sur des feuilles des petites choses en nous écoutant. Vous voulez revenir sur quelque chose que vous avez entendu ou pas?
Bon, ben, par exemple, ce mot peuple qui a été un peu tourné dans tous les sens tout à l'heure, nous justement, nous pensons que c'est un mot un peu passe-partout, une boîte dans laquelle tout le monde renferme ce qu'il
là-dessus,
veut.
Là-dessus, on est bien d'accord.
Là-dessus, on est d'accord, tout à fait. Et c'est pour ça que Nathalie Arthaud, dans sa campagne, s'adresse aux travailleurs et aux travailleuses. C'est devenu l'emblème pour Arlette Laguillé. Elle a repris cette phrase parce que nous, on pense que la société est divisée entre ceux qui détiennent les capitaux et ceux qui travaillent et qui produisent les richesses. Et c'est ça la vraie fracture sociale dans la société actuelle.
Les travailleurs, vous l'êtes, puisque, on rappelle, vous êtes ouvrier dans la chimie. Et vous êtes donc le porte-parole régional de Lutte ouvrière en Rhône-Alpes, et donc partie prenante activement de cette campagne, mais vous en avez fait d'autres. Et vous soutenez évidemment Nathalie Arthaud, qui pour l'instant est créditée de 0,51% des intentions de vote au premier tour, selon les sondages. Alors, quand dans une France, on connaît une crise sociale sans précédent, avec un taux de chômage record, qui pourrait dépasser le seuil fatidique des 10% en juin, avec une fracture sociale accentuée entre les plus hauts et les plus bas salaires, avec une pénurie de logements médiatisée notamment par la Fondation Abbé Pierre, alors que dans le même temps, le monde connaît une crise économique équivalente, voire même supérieure à celle tristement célèbre de 1929, comment vous expliquez qu'un parti comme Lutte ouvrière, qui depuis 30 ans, et notamment avec Arlette Laguillé, figure emblématique, met en garde les Français et au-delà contre le capitalisme et le monde de la finance, un parti qui demande de la solidarité et de la redistribution, comment vous expliquez justement que ce parti et sa candidate, Nathalie Arthaud, ben peine à décoller dans les sondages?
Bon, on l'explique d'abord parce que la politique, aujourd'hui, elle donne quand même une basse idée d'elle-même. Hein, quand on entend les déclarations aujourd'hui des uns et des autres se dire candidat du peuple, alors que pendant des années, par exemple, hein, que ce soit Sarkozy ou bien d'autres qui sont en campagne, disent des choses, et pendant qu'ils sont au gouvernement ou aux affaires, puisque le Parti Socialiste est aux affaires dans les régions, font la politique que leur demande le patronat. Donc c'est quand même une raison de se détourner de la politique électorale. Ceci dit, nous, ce que nous voyons dans notre campagne de terrain, c'est que la colère, elle est là. Alors la colère, pour l'instant, elle ne s'exprime pas. En tout cas, elle ne s'exprime pas dans les urnes. Et c'est bien pour cela que nous allons faire une campagne, et que nous sommes dans la campagne activement, pour dire aux gens qu'il faut qu'ils s'expriment. Certes, les élections, nous le pensons, ne suffiront pas à changer la vie quotidienne, à faire en sorte que les profits soient utilisés pour les besoins de la population. Mais c'est indispensable pour dire ce qu'on pense. Et nous disons aux gens qui sont un peu écœurés par tout ce cinéma politicien qu'il faut se saisir du bulletin de vote pour s'exprimer sur nos intérêts. Et nos intérêts de travailleurs, pour nous, c'est de défendre les salaires, les emplois, c'est-à-dire l'essentiel de ce qu'on a pour subvenir à nos besoins.
Et vous pensez pas que le problème, ça vient aussi du fait qu'à la gauche de la gauche, on a trois partis, trois candidats, Jean-Luc Mélenchon pour le Front de Gauche, Philippe Poutou pour le nouveau parti anticapitaliste, NPA, et donc Nathalie Arthaud, que vous défendez, pour Lutte Ouvrière. Est-ce que c'est pas trop trois partis qui sont finalement sur une ligne assez proche? Et est-ce qu'il y a vraiment une grande différence entre ces trois partis?
Non, d'abord, c'est pas trop, puisqu'il est très bien que toutes les sensibilités s'expriment. C'est ça la démocratie. Donc ils ont tous leur légitimité. Ceci dit, dans cette campagne, nous ne disons pas la même chose. Jean-Luc Mélenchon espère pouvoir peser sur les événements avec un bon gouvernement. C'est-à-dire un gouvernement qui serait plus à même de prendre en compte les intérêts des plus pauvres. Nous pensons que les intérêts des plus pauvres ne se défendront pas par un changement de gouvernement. Parce que les gouvernements, les députés, les ministres, ce ne sont pas eux qui gouvernent. Ceux qui gouvernent, c'est ceux qui détiennent les capitaux. Et franchement, les mois qui viennent de passer nous en livrent quand même des exemples assez flagrants. Que ce soit Berlusconi en Italie, qui a été évincé du pouvoir non pas par une élection, mais par la décision des banquiers. Et en règle générale, quel que soit le ministre du Travail, quand une usine ferme, le ministre, il enregistre, il prend acte, il s'agite un peu, mais la décision, elle appartient au propriétaire, à l'actionnaire de l'entreprise, et c'est tout à fait légal pour lui de fermer cette entreprise. C'est ça que nous contestons. Et nous ne pensons pas qu'un bulletin de vote sera suffisamment puissant pour remettre en cause leur décision. Ce qui remettra en cause les décisions de fermer une entreprise, c'est la colère exprimée par ce monde du travail. Le fait que quand une usine s'arrête, la pompe à fric s'arrête. La source de prélèvement des richesses s'arrête. Et ça, c'est, à notre avis, le seul moyen de pression contre ceux qui vraiment détiennent les rênes de l'économie sur cette planète.
Alors Jean-Luc Mélenchon, candidat du système politique, il a été sénateur, il a été ministre. On comprend bien pourquoi ça ne va pas avec ce qu'il représente. Mais Philippe Poutou, on a du mal à voir pourquoi vous ne pourriez pas vous entendre. Il y a vraiment une différence entre le nouveau parti anticapitaliste et Lutte Ouvrière?
Mais je comprends pas trop ce qui peut déranger dans le fait qu'il y a plusieurs candidats qui peuvent exprimer des sensibilités un peu différentes.
Personnellement, ça me dérange pas. C'est juste pour qu'on essaye de mieux comprendre et mieux définir les partis
politiques. Dans le paysage politique, il y a plusieurs candidats de droite. La différence entre François Bayrou et
Marine Le Pen, elle est quand même assez grande, quand même.
D'accord. Mais entre Marine Le Pen et Claude Guéant, c'est déjà moins flagrant.
Oui, mais c'est pas Claude Guéant qui se présente, pour le coup.
Bah, peut-être, mais en tout cas, c'est lui qui est ministre. Donc, c'est quelque part pour lui que certains auront voté. Donc, dans le paysage politique, il y a plusieurs courants de droite. Moi, personnellement, je comprends pas trop les différences entre tous ces gens-là. Et pourtant, ils se présentent. C'est pas ça, le problème.
Alors, on a fait des émissions, justement, pour expliquer les différences qu'il y avait. Donc, reçu des candidats.
Bon courage.
Donc, vous êtes là aussi pour ça.
Bon courage. Ceci dit, nous, ce que nous disons, c'est que les travailleurs, ils ont rarement l'occasion de s'exprimer.
Oui, bien sûr.
Et on va certainement pas se priver d'une occasion qui est donnée avec l'élection présidentielle de multiplier les voix pour faire entendre ce monde du travail. Les micros, ils se tendent devant les travailleurs quand ils sont en manifestation, la plupart du temps, ou en grève, ou alors quand une usine est fermée et les journalistes viennent un petit peu se pencher sur leur sort. Eh bien, nous voulons donner les moyens de faire entendre leurs intérêts, donc nos intérêts, qui sont encore une fois, ça j'y reviens parce que c'est vraiment l'essentiel et les autres le disent pas. C'est qu'aujourd'hui, perdre son travail, c'est perdre le moyen de subsistance, le seul moyen de subsistance. Donc, il faut absolument l'empêcher. C'est pour ça que une mesure centrale de notre programme, et sans doute que Philippe Poutou la défendra aussi,
c'est
d'interdire les licenciements. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'accepter qu'une famille soit jetée dans la misère par la décision d'un dirigeant d'entreprise pour des motivations de bénéfices.
Et justement, vous qui êtes travailleur, vous êtes ouvrier, qu'est-ce que vous dites quand vous entendez que les ouvriers, massivement, à 40%, c'est les sondages qui disent ça, votent pas pour Nathalie Arthaud, Philippe Poutou ou même Jean-Luc Mélenchon, tout candidat du système qui serait, ils votent pour Marine Le Pen. Est-ce que c'est la réalité que vous constatez, vous, quand vous êtes sur le terrain et que vous militez? Et qu'est-ce que vous avez à dire à ça, sur les ouvriers qui voteraient massivement Marine Le Pen?
Non, ça c'est un mythe. c'est un mythe que une partie de la classe ouvrière soit de droite et que cette partie de droite existe depuis bien des années entre ceux qui votaient pour De Gaulle, ensuite ceux qui ont voté pour Chirac. Ça, il y a toujours une fraction de droite dans le monde du travail. Mais le fonds de commerce du Front National, c'est plutôt les petits commerçants, les petits artisans et ces classes indépendantes. Donc, ce que je rencontre surtout autour de moi, c'est des collègues travailleurs qui n'ont pas trop envie d'aller voter. Parce que ils ont plus d'illusions sur ce moyen de changer leur sort. Ce en quoi ils ont pas peur. Nous, on leur dit, il faut quand même y aller pour voter pour nos intérêts. Ceci dit, il y a bien d'autres façons de s'exprimer que par le vote.
Bien sûr, les associations.
Et que les associations, et puis aujourd'hui, on voit que, y compris les ouvrières de l'Ojabi, si elles n'étaient pas mobilisées, si elles n'avaient pas fait grève, si elles n'avaient pas occupé plusieurs fois leurs entreprises, et pas seulement à Issingeaux, mais aussi à Rieux-la-Pape, tout près d'ici, personne ne se serait penché sur leur sort. Donc ça, c'est un moyen qu'on doit utiliser, c'est-à-dire notre force collective. Et ce que je dis à mes collègues de boulot, c'est que notre force, c'est ça, c'est le collectif. C'est le fait que quand on arrive à mettre en œuvre notre place dans l'économie, les travailleurs, ils sont présents dans tous les secteurs de l'économie, que ce soit les banques, que ce soit l'industrie, les transports, le textile. Eh bien ça, c'est une force extrêmement importante qu'on a et qu'on ne sait pas utiliser. C'est cette force qu'on doit apprendre à utiliser.
Alors justement, mettre en place cette force, c'est le nœud de votre programme. Alors, c'est pas vraiment un programme. Si on va sur votre site internet, on comprend, vous le dites d'ailleurs, c'est un ensemble de propositions parce que comme vous ne pensez pas qu'un bulletin de vote changera tout, vous ne pensez pas qu'un programme bien impliqué changera tout, parce que de toute façon, c'est lié. Mais dans ces propositions, vous défendez notamment ce que vous avez dit tout à l'heure, l'interdiction des licenciements et la répartition du travail entre tous, avec maintien du salaire. Alors concrètement, comment on fait ?
Ça, c'est un programme. Mais c'est un programme pour les luttes.
C'est une un ensemble de valeurs de propositions, quoi. C'est pas un programme stricto sensu, quoi.
Disons que c'est des revendications qui, nous l'espérons, pourront être reprises par les travailleurs qui se mettront en colère dans les mois ou les semaines qui viennent. Nous l'espérons. Alors, pour revenir sur cette répartition du travail, on peut prendre l'exemple de Mittal en ce moment. Florange est en passe de fermer. Gandrange, ça a été le cas. Mais à côté, il y a bien d'autres aciéries qui tournent à 100%. C'est-à-dire à 100% qu'il y a des pressions sur les cadences, il y a des pressions sur les horaires, il y a des pressions sur la productivité. Et à côté, on ferme une aciérie. Bon, ça, c'est le symbole de ce qui se passe dans l'industrie en ce moment. Les patrons, ils pressurent les travailleurs d'un côté et ils les mettent au chômage d'un autre. Pressurer les travailleurs, ça veut dire toutes les conséquences sur le stress, les maladies professionnelles, les cadences de travail. Et les maladies professionnelles quand ça va pas jusqu'à l'accident du travail et jusqu'à la détérioration de la santé. Et d'un autre côté, y a des chômeurs qui attendent, il y a des intérimaires qui sont virés. Donc répartir le travail sans diminution de salaire, ça veut dire que tout le monde travaille, tout le monde garde son salaire, on baisse les cadences et on prend sur les bénéfices pour que tout le monde puisse avoir son salaire.
Et c'est pour ça, donc on prend sur les bénéfices pour garantir le salaire, le bénéfice donc qui serait taxé, taxation des bénéfices de l'entreprise. Pour garantir le salaire.
Oui, le bénéfice, il doit servir à ça, normalement. Donc, à quoi doit servir le bénéfice, si ce n'est à l'ensemble de ceux qui l'ont fabriqué?
Non, mais pour qu'on comprenne bien, c'est ça que vous appelez. Une redistribution par la taxation encore plus des bénéfices, c'est bien ça? Oui.
Une taxation, ce n'est pas forcément une taxation. C'est quand une entreprise envisage de fermer, on lui interdit de fermer.
D'accord.
Et on l'oblige à prendre sur les bénéfices qu'elle a en caisse. L'argent, d'accord, il est là, dans son compte en banque, pour maintenir les emplois.
D'accord. Et alors, quand on dit interdiction des licenciements, c'est aussi les délocalisations. C'est à ça que tout de suite on pense, alors peut-être à tort, mais concrètement, comment vous pouvez interdire à une entreprise de délocaliser, alors même que la plupart des grandes entreprises, elles sont détenues soit par des grands groupes multinationaux qui sont donc pas basés en France, leur siège social n'est pas en France, soit alors ils sont détenus, on l'a vu là, ces dernières semaines, par des fonds de pension américains, hollandais ou autres, donc qui sont des propriétés étrangères. Comment vous faites pour interdire ces délocalisations alors qu'on est bien d'accord que la majorité des entreprises françaises, qui sont des petites et moyennes entreprises, ne sont pas enclines à délocaliser? Comment vous faites pour empêcher ces grands groupes, parce que c'est eux qui délocalisent, de délocaliser?
Alors d'abord, les licenciements ne sont pas dus aux délocalisations.
Non, pas tout, mais c'est ça, c'est très médiatique quand
vous
même.
Savez, oui, c'est très médiatique. Justement, c'est pas pour rien qu'on met la lumière sur cette délocalisation, sur les quelques exemples qui délocalisent. Mais les 900 usines qui ont fermé depuis 2008, c'est pas toutes pour les délocalisations.
Bien sûr que non. J'ai bien dit que c'était médiatique.
Voilà, mais non, mais c'est important de le dire parce que la plupart des fermetures qu'il y a eu, c'est pour des gains de productivité ou pour assurer un bénéfice plus fort. C'est-à-dire que des actionnaires qui jugent que 5% de profit par an, c'est pas suffisant, donc on ferme une usine et on garde que celle qui rapporte que plus de 10%, pas pour délocaliser. Et on a des cas à côté de chez nous. Ce qui se passe à Arkema en ce moment. Arkema a décidé de se séparer du pôle vinylique, bon, du PVC. Pas parce qu'il ne rapporte pas d'argent, mais parce qu'il n'en rapporte pas assez. Bon. Et ben ça, c'est exactement la dictature des financiers. C'est eux qui décident de fermer, alors qu'il n'y a aucune justification économique. En ce qui concerne les délocalisations, moi, là, quand même, je voudrais dire que si, à chaque fois, on nous sert la soupe là-dessus, c'est parce qu'on voudrait nous faire croire que si on délocalise, c'est si on est licencié, c'est à cause des travailleurs chinois qui sont moins payés, à cause des travailleurs indiens, à cause des travailleurs allemands.
Peuple contre peuple, finalement.
Peuple contre peuple. Et ben ça, c'est un poison pour l'ensemble du monde du travail. C'est pas d'aujourd'hui que cet argument est utilisé. Depuis des années et des années, si ce n'est maintenant un siècle, on essaie d'opposer les travailleurs d'un pays contre les travailleurs d'un autre pays.
C'était la peur du plombier polonais il y a quelques années, par exemple.
Par exemple, et puis on peut remonter encore plus loin dans l'histoire. Et de ce point de vue-là, le mouvement ouvrier, à l'époque des premiers partis socialistes, dès le début s'est opposé à ce piège-là, en disant que non, les travailleurs belges ne sont pas les ennemis des mineurs français. Non, les travailleurs maghrébins ne sont pas les ennemis des travailleurs français. Et nous pensons et nous affirmons qu'on ne va pas défendre l'emploi contre le travailleur allemand, on va défendre l'emploi contre le patron français. Parce que c'est la plupart du temps nos employeurs même qui licencient. Alors bon, on parlait tout à l'heure de la sous-traitance. C'est vrai que toute une partie des licenciements sont faits dans la sous-traitance, c'est-à-dire des entreprises qui subissent la décision d'un grand groupe.
Voilà, multinationale par exemple, ou gérée par un fonds de pension.
Par exemple. Eh bien ça veut dire que finalement, toute cette société, elle est dirigée par très peu de monde. Et que les grandes décisions qui ont des conséquences pour l'ensemble de la société sont prises par très peu de personnes. Eh bien ça, nous, nous revendiquons de le remettre en cause. Nous revendiquons de leur enlever les rênes de l'économie. De leur enlever ce moyen de pression sur l'ensemble de la société. C'est les grands groupes, effectivement. C'est souvent des banques. Assez peu. On parle de 7 grandes banques sur la planète qui donnent le là. On parle de quelques 5 ou 6 majeurs dans le pétrole. C'est-à-dire que, finalement, toute la production, elle est effectivement mondialisée. Elle est collective. Et bien, la propriété, elle reste extrêmement privée.
C'est pour ça que vous dites qu'il faut la colère du peuple. Parce que, concrètement, si on vote pour vous, vous êtes incapable de nous promettre et de signer... lutte ouvrière est au gouvernement, on fait ça. C'est pas possible. Il faut qu'il y ait une colère du peuple pour mettre en place ce que vous voulez. C'est pas juste le bulletin.
Bien sûr. C'est pour ça que nous sommes communistes et révolutionnaires. Nous sommes révolutionnaires parce que nous pensons que ce changement de société passera, comme dans les révolutions du passé, par une vague de fond, une vague de colère de l'ensemble de la population. Et d'autre part, nous sommes communistes parce que nous pensons que le système qui aujourd'hui plonge dans la misère toute une partie de la population, y compris en Europe, on le voit les conséquences qu'il y a en Grèce, ce système, il est à bout de souffle, il est en faillite. Personne ne peut le contrôler, même pas les plus grands économistes de la planète n'arrivent à freiner la spirale infernale vers le gouffre. Donc nous pensons qu'il faut remplacer ce système-là.
Nathalie Arthaud disait, en référence à Jean-Luc Mélenchon, « Je suis la seule dans cette campagne à être communiste ». Vous leur reprochez à tous ces candidats de gauche, de François Hollande à Jean-Luc Mélenchon notamment, de ne pas être assez de gauche et de ne pas être révolutionnaire tout simplement? Vous leur reprochez ça?
Ils ont fait ce choix-là. C'est pas à moi de leur reprocher quelque chose. Mais c'est pas pour rien qu'ils ont fait ce choix-là.
Mais pour vous, c'est pas comme ça qu'on change les choses. C'est pas avec leur méthode.
Je pense que si le Parti communiste a décidé d'abandonner son étiquette pour suivre un politicien professionnel qui, effectivement, a fait plus de 25 ans au Sénat ou au Parti Socialiste, c'est parce que il pense que finalement, le capitalisme, on peut le réformer, mais est-ce qu'on peut vraiment le changer ? Nous levons ce drapeau du communisme. Nous le gardons levé parce que nous pensons qu'il n'y a pas de solution dans le capitalisme. C'est un système anarchique, c'est un système qui est à la merci des décisions d'un actionnaire, pas seulement d'un trader, mais d'un actionnaire ou d'une banque, qui peut, en fleurant une bonne affaire, prendre une décision qui va mettre en cause tout le système. Et bien, il le fera quand même. Ces gens-là, ils ont prouvé par la crise financière encore récente qu'ils sont incompétents pour gérer l'économie. Et bien, il est urgent de leur enlever l'économie des mains. Et évidemment, ce n'est pas par un changement de gouvernement qu'on y arrivera, c'est par un mouvement populaire, c'est par une révolution, c'est par l'entrée en scène du monde du travail. Je voudrais m'arrêter quand même deux secondes là-dessus, pour essayer de faire toucher du doigt les moyens qu'on pourra avoir de changer le mode de décision dans l'économie. Parce que les travailleurs sont présents dans tous les secteurs de l'économie. Du coup, ils peuvent absolument tout savoir de ce qui se passe. Depuis l'employé de banque, qui sait parfaitement les transferts de comptes, voire même le montant des comptes de tel et tel client, jusqu'à l'employé du Trésor public ou des assurances, jusqu'à les travailleurs de l'industrie pharmaceutique, comme pour le médiateur qui savait très bien qu'il y avait un problème de santé mais qui ne pouvait pas le dire. Donc toutes ces informations, nous proposons de les mettre en commun. Que tout travailleur qui a une information qui peut intéresser tout le monde puisse le dire. Aujourd'hui, c'est interdit. Aujourd'hui, quand...
Secret d'entreprise.
Secret d'entreprise et secret bancaire. Aujourd'hui, plusieurs patrons traînent devant les tribunaux des salariés qui ont mis sur la place publique une information exacte, mais une information qui, pour eux, entache l'image de l'entreprise. Se retrouvent en procès pour ça. Nous pensons que ce secret bancaire, ce secret industriel, il faut le faire sauter pour que l'ensemble de ceux qui détiennent des informations puissent les faire circuler.
Alors quand vous êtes interviewé, vous, mais lutte ouvrière en général, et on va dire tous les partis dits d'extrême gauche, c'est surtout pour vous faire parler d'emploi, de chômage, de lutte contre le patronat, parce que évidemment c'est essentiel. Mais ce n'est pas le seul enjeu d'une campagne présidentielle. Il y a aussi des thèmes, et sur votre site internet, ils ne sont pas oubliés, que vous développez et sur lesquels on ne vous entend jamais. Alors on va justement revenir sur un d'entre eux. On vous entend très peu parler d'environnement, alors que depuis quelques décennies maintenant, ce sujet est au cœur des préoccupations des Français. Alors que propose Jeute Ouvrière pour répondre à la nécessaire transition énergétique et lutter contre la crise climatique ?
Eh bien, c'est absolument lié au sujet précédent, parce que vous rendez bien compte que aujourd'hui investir dans un système de production écologique, investir dans une nouvelle tour de distillation qui polluerait moins, qui en a les moyens de le faire, si ce n'est ceux qui détiennent les capitaux. Éviter que des pétroliers, des épaves naviguent sur les mers du monde. Éviter que les déchets aujourd'hui soient jetés aux quatre coins de la planète et notamment dans les pays pauvres. Qui le fait si ce n'est ceux qui dirigent cette économie, ceux qui dirigent les grandes sociétés ? Alors comment espérer changer les choses au niveau de l'environnement sans remettre en cause ce pouvoir-là ? Nous pensons que, aussi pour l'écologie, il faut que la population se donne les moyens d'investir ou pas dans tel et tel système de production. Tant qu'on n'a pas les rênes, tant qu'on n'a pas les capitaux, tant qu'on n'a pas, en gros, le contrôle des banques, comment décider de l'investissement dans un système polluant ou pas ? Donc notre priorité, c'est vraiment de remettre en cause ce pouvoir-là.
Alors pour finir, on va passer en revue des thèmes d'actualité de la campagne. Vous allez me dire si oui ou non, vous et donc Lutte Ouvrière, êtes favorable à ce sujet. Et rapidement, des réponses courtes, me dire pourquoi. Alors pour ou contre le droit de vote des étrangers aux élections locales ?
Oui, bien sûr, et nationales aussi.
D'accord. Pour ou contre le travailler plus pour gagner plus quand on est professeur proposé par Nicolas Sarkozy, c'est-à-dire passer plus de temps sur place à l'école pour être payé 500 euros en plus ?
Mais c'est une forfaiture. On supprime 150 000 postes dans la fonction publique et ensuite on propose aux gens de travailler plus. Ben, nous, comme on disait tout à l'heure, on est pour la répartition du travail sans diminution de salaire. On est pour que tout le monde travaille. Parce qu'encore une fois, le chômage, c'est une catastrophe. Aujourd'hui, on arrive à interdire les expulsions des logements entre le 15 octobre et le 15 mars parce qu'on se rend bien compte que le froid va tuer des gens. Ben, nous, nous sommes pour interdire les licenciements parce que le chômage, ça tue des gens.
Pour ou contre la régularisation massive des sans-papiers proposée notamment par le Front de Gauche ?
Oui, je suis pour. Enfin, nous sommes pour, parce que nous sommes tous des travailleurs. Et un chômeur chinois, c'est aussi grave qu'un chômeur français. Et n'importe quel travailleur de la planète est notre allié.
Pour ou contre la légalisation du cannabis proposée notamment par le nouveau parti anticapitaliste ?
Ah ben, moi, je ne suis pas pour trouver un paradis artificiel.
Donc non.
En tout cas, on n'est pas pour interdire. On n'est pas pour que ce soit la police qui règle la vie privée et individuelle des gens.
Moins de police, mais on ne légalise pas quand même.
Mais on ne va pas faire l'apologie des paradis artificiels.
Pour ou contre le mariage et l'adoption pour les couples homosexuels ?
Ben ça, c'est la position contre le mariage tout court. Hein, c'est-à-dire que le mariage, c'est-à-dire faire tamponner une union entre deux personnes par un représentant d'une mairie.
Nous, alors contre le mariage tout court, mais sur le symbole.
Ah ben nous, on est pour l'union libre. Voilà.
Donc pour. Et dernière question, pour ou contre l'introduction du scrutin proportionnel, total ou partiel, pour les élections législatives ?
Oui, bien sûr, pour la proportionnelle. Nous sommes même pour la démocratie directe, c'est-à-dire pour que ça soit des assemblées générales, des assemblées de la population qui puissent déterminer les décisions pour tout ce qui les concerne.
Très bien, on va finir là-dessus. Merci Vincent Gouteni d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que les propositions de lutte ouvrière que vous avez défendues à ce micro pour cette élection présidentielle sont disponibles sur Internet. Alors notre émission touche à sa fin, merci de l'avoir suivi. Pour réagir et suivre l'actualité de votre émission préférée, vous pouvez ajouter Président parmi vos amis sur Facebook. Merci encore à vous Vincent Gouteni, merci à Xavier, Caroline qui sont en technique. Surtout, n'oubliez pas, gardez l'esprit critique.